travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades. Avant de passer à l'apéritif, donc je voudrais dire quelques mots de la situation politique et sociale. Le gouvernement, le patronat et les médias ne décolèrent pas. Malgré les monceaux de calomnies, malgré le chantage à la solidarité avec les sinistrés victimes des inondations, et malgré le début de l'Euro de football, la grève à la SNCF se poursuit, les éboueurs tiennent bon et les pilotes d'Air France ont mis leur menace de grève à exécution. Eh bien, ils ont raison. Ni le gouvernement, ni le patronat n'observeront de trêve dans leur offensive contre les travailleurs. Pourquoi les travailleurs le feraient-ils? On peut être supporter de foot, on peut même être sinistré et ne pas accepter la démolition du code du travail. On nous bourre le crâne avec l'image de la France, la fête qui est supposée être l'Euro de football et les droits des travailleurs. Ils ne valent rien, ils ne signifient rien. Il y en a marre de tout ce chantage qui conduit toujours à ce que les travailleurs se taisent et subissent les reculs qu'on leur inflige sans pouvoir rien faire. Les travailleurs font des sacrifices depuis des années. Ils doivent être toujours plus flexibles. Ils doivent travailler toujours plus, se mettre en quatre, se dévouer toujours et encore. Tout cela pourquoi? Pour un salaire qui stagne, voire qui baisse, et pour des droits qui ne font que régresser. Le gouvernement porte l'entière responsabilité de ce qui se passe. Il accuse les opposants à la loi El Khomri d'être jusqu'au boutiste, minoritaire, irresponsable. Mais qui est minoritaire dans cette affaire? Qui s'obstine à imposer un projet de loi rejeté massivement par la population et quasi unanimement par le monde du travail? Quant à l'irresponsabilité, eh bien, elle consiste à faire reculer la condition ouvrière des décennies en arrière. Le gouvernement prétend qu'il n'y a plus d'objet à cette contestation, qu'il a levé les incompréhensions en faisant, comme il dit, de la pédagogie. Mais aucun travailleur ne peut être dupe. Si le patronat peut, par accord d'entreprise, déroger aux droits collectifs inscrits dans les conventions collectives, les attaques redoubleront. Et s'il peut licencier plus facilement, eh bien il y aura plus de licenciements et plus de précarité. Les suppressions d'emplois, les reculs sur les conditions de travail et les salaires, c'est la réalité vécue par des millions de travailleurs de ce pays. Des cheminots jusqu'aux pilotes d'avion, en passant par les ouvriers de Peugeot ou de Michelin. Cette offensive prend exactement la même forme, celle de plans de compétitivité, où les salariés sont censés travailler plus longtemps avec plus de flexibilité et moins de compensation salariale quand il ne s'agit pas de baisser purement et simplement les salaires comme à Air France. Ici, les camarades de Michelin m'ont dit que la direction veut généraliser le travail 7 jours sur 7, comme c'est déjà le cas à La Roche-sur-Yon et à Rouen, et imposer le travail en 2 fois 12 heures le week-end pour, comme le dit la direction, saturer l'outil de travail. Mais ce sont les ouvriers qui saturent et qui n'en peuvent plus de l'augmentation continuelle des cadences et des modifications d'horaires qui détruisent leur vie de famille et leur santé pour un salaire qui permet tout juste de joindre les deux bouts. Alors, il n'y a aucune raison de nous taire. Il faut continuer de dénoncer cette énième attaque contre les travailleurs comme nous le faisons maintenant depuis 3 mois. Et il faudra répondre présent, le plus nombreux possible, à la manifestation de mardi prochain, organisée par les confédérations syndicales opposées à la loi. Le gouvernement et le patronat parient sur l'usure du mouvement. Pour beaucoup d'entre nous, ce sera en effet la 9e journée nationale de manifestation. Certains ont déjà fait 8, 9, 10 jours de grève. Beaucoup de cheminots en ont fait encore plus et ont sacrifié une bonne partie de leur salaire dans cette grève. Alors oui, c'est une lutte de longue haleine, mais le monde du travail a des ressources. Il y a des forces en réserve. Alors mardi, montons. montrons au gouvernement et au patronat que nous dénonçons leur offensive comme au premier jour. Montrons-leur que notre colère est intacte. Montrons-leur que nous n'acceptons pas que la loi soit faite par le patronat. Pour faire reculer le patronat et le gouvernement de façon décisive, il faudrait que les travailleurs se lèvent en bloc dans les entreprises. Il faudrait que les grèves deviennent contagieuses et menacent de se généraliser. En 1995, lorsque Juppé a reculé, ou en 2006, lorsque Villepin a dû remballer son projet de CPE, ils étaient confrontés à cela. Un mouvement qui se répandait vite, qui bloquait une partie de l'économie et qui menaçait de s'approfondir. Nous ne sommes pas du tout dans cette situation. Ceci dit, en 3 mois, on a déjà vu la mobilisation rebondir, changer de forme. La durée même de cette mobilisation, le fait qu'elle télescope d'autres rendez-vous, tout cela contribue à peser sur le gouvernement. Alors tant que la contestation continue, rien n'est joué. Mais l'enjeu de cette mobilisation dépasse le seul avenir de la loi El Khomri. La contestation recouvre un ras-le-bol plus global, une colère plus large, une colère contre l'offensive générale du patronat et le recul de l'ensemble de la société. En témoigne la variété des secteurs qui sont mobilisés, la présence des jeunes, la présence du public, du privé, des grandes entreprises, mais aussi des petites entreprises. Cette mobilisation exprime tout simplement la volonté d'une fraction des travailleurs d'inverser le rapport de force avec le patronat, et c'est ça qui est un grand pas pour le monde du travail. Souvenez-vous, en 2009, Sarkozy fanfaronnait en disant qu'en France, lorsqu'il y a une grève, plus personne ne s'en rend compte. Ces 4 dernières années, quand le gouvernement Hollande s'est attaqué à la retraite, a augmenté les impôts, a arrosé le patronat de milliards d'argent public, lorsqu'il a généralisé le travail du dimanche, tout s'est passé comme si nous étions comme paralysés, sans voix, presque consentants. Eh bien, les choses ont changé. Désormais, la colère s'exprime. Une fraction des travailleurs se lève pour dire « ça suffit ». Et même s'il ne s'agit que d'une fraction de la classe ouvrière, dans toutes les entreprises à l'échelle du pays, il y a des travailleurs qui s'organisent, qui débrayent, qui font grève et qui manifestent. Des travailleurs qui, depuis 3 mois maintenant, restent de marbre face aux calomnies et au chantage du gouvernement et des médias. Des travailleurs qui déjouent les pièges et les divisions. Parce que des pièges et des divisions, il y en a eu depuis 3 mois. Le gouvernement a d'abord voulu opposer les chômeurs aux salariés, les jeunes aux anciens, les intérimaires aux CDI. Il a ensuite voulu monter la population contre les grévistes et la CGT, assimilée à des preneurs d'otages, si ce n'est à des terroristes. Il a échoué. Alors oui, on peut d'ores et déjà parler de victoire, parce que c'est d'abord une victoire sur nous-mêmes. C'est une victoire sur la passivité et sur la résignation. C'est une victoire morale sur le gouvernement et sur le patronat. Par sa durée et par la conscience de classe qu'elle a exprimée, cette mobilisation a renforcé politiquement le monde du travail. Elle a commencé à changer le rapport de force avec le gouvernement et le patronat. Eh bien, il faut continuer sur cette voie, parce que c'est la seule qui permettra aux travailleurs de se faire respecter. Le réveil de la combativité ouvrière, la conscience d'avoir des intérêts de classe à défendre et d'être capable de les imposer au travers des luttes collectives sont autrement plus décisifs pour le monde ouvrier qu'aucune élection. Mais la vie politique et le jeu démocratique sont conçus pour fausser cette conscience. Les élections, le cirque des campagnes électorales avec leurs programmes, leurs grandes messes et le bourrage de crâne médiatique sont faits pour entretenir l'illusion d'un changement possible par les urnes. Avec la campagne pour la présidentielle de 2017 qui commence, nous entrons dans ce genre de période propice aux charlatans. faut que les travailleurs qui regrettent d'être tombés dans le panneau en votant pour Hollande en 2012 tirent toutes les leçons de ce qui se passe. Il faut qu'ils comprennent que ces reniements et sa politique anti-ouvrière ne sont pas une question de personnalité, de courage, ni même de ligne politique. Tous ceux qui acceptent le cadre du système capitaliste, de la propriété privée, des moyens de production, du marché et de la concurrence, et qui se font élire pour gérer les affaires de l'État, se vouent à n'être que des sous-fifres. Car les vrais maîtres de l'économie et de la société, ce sont les Peugeot, les Bouygues, les Michelin, les Arnault, les Dassault, les Mittal. Ils disposent des capitaux, ils sont les maîtres des entreprises, dont dépend la vie de dizaines de milliers de femmes et d'hommes. L'économie aussi, et l'avenir de villes, voire de régions entières. Leurs décisions et leur volonté s'imposent à ceux censés gérer les affaires de l'État. Les ministres, le président de la République, et a fortiori les députés, ne sont là que pour faire de la figuration, que pour justifier les décisions prises dans ces grands groupes capitalistes. On en a une illustration concrète avec la loi El Khomri. Cette loi, elle devrait en fait s'appeler la loi Gattaz, parce qu'elle n'est pas née de la tête de Myriam El Khomri. Elle a été conçue dans les réunions du MEDEF, dans les conseils d'administration des grandes entreprises, et elle a été écrite sous leur dictée par quelques hauts fonctionnaires, et cela bien avant que Myriam El Khomri ne sache qu'elle serait nommée un jour au ministère du Travail. Bien sûr, Hollande et Valls y ont ajouté leur petite touche personnelle pour essayer de faire passer la pilule. Mais c'est le grand patronat qui est le commanditaire et le bénéficiaire de cette loi. Et de façon générale, c'est lui qui ordonne. Et tous les gouvernements exécutent, qu'ils soient de droite ou de gauche, parce que, pour tous ces politiciens dévoués à l'ordre capitaliste, gérer les affaires de l'État, c'est gérer les affaires de la bourgeoisie. Si, aussitôt élu, Hollande a jeté son programme par-dessus bord pour épouser celui du MEDEF, c'est tout simplement parce qu'il a fait ce que la bourgeoisie lui commandait de faire. Il a obéi aux pressions et aux injonctions patronales. Mais ni plus ni moins que Jospin et Mitterrand ne l'ont fait en leur temps. Ni plus ni moins que Lula au Brésil ne l'a fait lui aussi. Ni plus ni moins que Tsipras ne le fait en ce moment en Grèce. Car, encore une fois, ce n'est pas une question de caractère ou de choix politique, c'est une question de système. Ceux qui nous expliquent, à droite et du côté du patronat, qu'il n'y a pas d'issue dans la concurrence imposée par le capitalisme que d'aligner les conditions de travail sur ceux qui sont les plus exploités dans le monde, sont logiques. Parce que oui, le capitalisme, c'est la guerre économique. Une guerre où ne survivent que les plus gros, les plus rapaces. Alors, soit on accepte le capitalisme et les conséquences qui vont avec, soit on les rejette. Mais il faut alors avoir l'objectif de renverser le capitalisme et le pouvoir de la bourgeoisie. Il n'y a pas de voie médiane. Il n'y a plus de voie pour le réformisme. Il n'y a plus de voie pour ce que l'on appelle communément la gauche. Le PCF et Jean-Luc Mélenchon prétendent connaître une voie permettant à la condition ouvrière de progresser sans pour autant remettre en cause le capitalisme. Mais les lois économiques puissantes s'imposent à tous ceux qui gouvernent. Ce sont les lois des profits, de la concurrence et du marché. Et dans la crise où nous sommes plongés, sauf voler des parts de marché à leurs concurrents, sauf se racheter les uns les autres et spéculer, les bourgeois ne peuvent pas développer leurs affaires. Ils ne peuvent accroître leurs profits qu'au travers d'une guerre de classe féroce qui fera de plus en plus de victimes du côté du monde du travail. Ceux qui se réclament d'une vraie politique de gauche, que ce soit un Mélenchon ou un Montebourg, peuvent nier ces lois, ils peuvent omettre la dictature de la bourgeoisie tant qu'ils ne sont pas au pouvoir. Une fois qu'ils y accèdent, et cela a d'ailleurs été le cas des deux, de Montebourg et de Mélenchon, qui a été secrétaire d'État sous Jospin, ils n'ont que le choix de se ranger ou de démissionner. Jean-Luc Mélenchon appelle ses soutiens à rêver. Mais ce ne sont pas d'illusions dont les travailleurs ont besoin, c'est de conscience. Encore une fois, tous ceux qui occultent et qui refusent de s'en prendre à la domination de la bourgeoisie se vouent à l'impuissance, ou pire, à servir et à trahir les intérêts des travailleurs, qu'ils s'appellent Hollande, Montebourg ou Mélenchon. Et c'est pourquoi nous ne participerons pas aux diverses tentatives pour ressusciter une gauche gouvernementale, que ce soit autour d'un tel ou d'une telle. Nous voulons reconstruire un parti ouvrier qui mette en avant les exigences des travailleurs, des chômeurs, des retraités. Un parti qui prenne position politique du point de vue des travailleurs et de leurs intérêts. Pas des intérêts de la France, pas des intérêts des entreprises, car il s'agit toujours des intérêts de la bourgeoisie. Nous voulons un parti qui ne véhicule pas d'illusions électoralistes, mais qui dise clairement que le seul moyen pour changer la société, ce sont les luttes des travailleurs eux-mêmes. Et un parti qui place sa confiance dans les travailleurs, dans leur capacité collective justement à se défendre et à transformer la société par en bas. Dans le passé, ils ont prouvé qu'ils pouvaient le faire, avec la Commune de Paris de 1871, mais aussi avec la Révolution russe de 1917, les travailleurs ont fait la preuve qu'ils pouvaient transformer la société, en créer une autre, radicalement différente, basée sur la propriété collective. Une société sans la domination de l'argent et du profit, une société et une économie d'abord organisées pour répondre aux besoins de toute la population. Eh bien, c'est dans cette force sociale-là que va notre confiance. Nous nous revendiquons non pas de la gauche, mais du camp des travailleurs. Parler de la gauche, c'est mêler des salariés, des chômeurs, des femmes et des hommes des classes populaires, avec des dirigeants politiques dévoués corps et âme à la bourgeoisie comme Valls et Hollande. C'est les mêler avec des hommes riches et méprisants du genre de Macron ou de Cahuzac, qui appartiennent à la bourgeoisie, qui ont l'arrogance et le mépris social de la bourgeoisie, et même sa tradition de frauder le fisc. En politique, la gauche ne désigne plus qu'une écurie de politiciens sans rapport depuis longtemps avec les partis que le mouvement ouvrier avait fait naître. Des politiciens qui parlent des grèves et des syndicats avec autant de hargne que la droite et que le patronat. Alors, la véritable frontière ne passe pas entre la gauche et la droite politicienne. C'est une frontière de classe et elle passe entre le patronat d'un côté et le camp des travailleurs. Le camp des travailleurs est composé d'une grande variété de salariés. Il y a des ouvriers, des techniciens, des employés de bureau, des fonctionnaires, des ingénieurs, des enseignants, des aides-soignantes, des infirmières, des femmes de ménage, des cheminots et même des pilotes d'avion. Or, ils ne sont pas tous exploités au même niveau. Mais ils ont un point commun. Ils sont forcés de vendre leur force de travail pour vivre, leur force manuelle pour les uns, intellectuelle pour les autres. Pour combattre cette conscience d'appartenir au camp des travailleurs, le patronat ne parle plus d'ouvriers, il ne parle même plus de travailleurs. Il parle de collaborateurs, de chargés de clientèle, de team members, pour ne pas dire équipiers, parce que ça aussi, ça fait ringard. Mais la société, en fait, elle reste dominée par les mêmes rapports sociaux, avec d'un côté un patronat tout-puissant qui se paye à coups de millions, et de l'autre, des travailleurs qui sont traités comme des pions. Il y a aussi des millions de chômeurs. Et nous sommes loin du plein emploi des années 1960. Mais ce plein emploi n'a été qu'une parenthèse dans l'histoire de la classe ouvrière. Le chômage a toujours fait partie intégrante de la condition ouvrière. Avoir un travail, être licencié et se retrouver au chômage sont les deux faces de la même pièce. Aujourd'hui, quand on alterne les périodes de travail en CDD ou en intérim et les périodes de chômage, qu'est-ce qu'on est ? Un salarié ? Un chômeur ? On est potentiellement les deux, parce que, justement, le propre de la condition ouvrière, c'est de n'être assuré de rien, et pas même de pouvoir se faire exploiter. Et pour trouver du travail, combien de femmes et d'hommes sont forcés de changer de région ? Combien sont forcés d'émigrer, de quitter leur famille, d'adopter une autre langue? Aujourd'hui, des centaines de milliers de travailleurs traversent des déserts, des continents, des montagnes, des mers, au péril de leur vie, pour venir construire des immeubles, travailler dans des restaurants ou vider les poubelles à Paris. Alors oui, c'est aussi le propre de la classe ouvrière que d'être internationale et de se mélanger encore et toujours. Alors, faire entendre le camp des travailleurs, c'est tout cela. C'est défendre les intérêts de la grande majorité de la population. Au-delà de ses origines, de sa couleur de peau ou de ses croyances, c'est défendre les intérêts de ceux qui n'exploitent personne, mais qui produisent tout. Et c'est œuvrer pour l'émancipation des exploités à l'échelle de la planète. La bourgeoisie ne pourrait pas régner si elle ne dominait pas les esprits avec ses valeurs, l'individualisme et l'enrichissement effréné. Et face à elle, il n'y a plus de parti digne de ce nom pour la contrecarrer et pour porter d'autres perspectives. Pire, les partis que les travailleurs s'étaient donnés pour mettre en avant les idéaux révolutionnaires les ont trahis et discrédités. Le Parti socialiste a repris à son compte toutes les idées de la bourgeoisie et les relaye depuis longtemps dans les classes populaires. Quant au Parti communiste, qui a été de loin le plus grand parti ouvrier que la France ait jamais connu, il a abandonné toute perspective révolutionnaire en épousant la politique stalinienne. C'était la révolte, la combativité, le courage et le dévouement de ces militants d'entreprise qui faisaient la force et la réputation du Parti communiste. Et tout cela a été dévoyé et gâché par sa direction. Nous célébrons cette année le 80e anniversaire des grèves de mai-juin 1936. Pendant ces grèves et ces occupations, alors que les travailleurs faisaient l'expérience de leur force collective et pouvaient commencer à envisager de faire tourner les usines sans patron, Maurice Thorez, le dirigeant du PCF, déclarait « Il faut savoir terminer une grève ». De la même façon, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, puis en mai-juin 1968, le Parti communiste a mis son poids pour freiner la montée ouvrière et protéger l'ordre bourgeois. Le Parti communiste n'a alors plus eu qu'un objectif, s'intégrer au système au travers de politiques dites d'union de la gauche. Au lieu de s'appuyer sur les combats que menaient ses militants, il a cultivé l'électoralisme, faisant croire que tout dépendait de l'élection d'un tel ou d'un tel. Que voter à gauche allait changer la vie des travailleurs. Autrement dit, pendant des décennies, il a été complice de l'imposture du Parti socialiste. Ce ne sont pas les travailleurs qui ont failli, mais les directions des partis qui prétendaient les représenter, en brouillant les consciences d'ouvrières et en écœurant jusqu'au meilleur de leurs militants. Le mouvement ouvrier s'est affaibli parce que sa direction a abandonné les idées de lutte de classe. Eh bien, il faut reconstruire un parti qui défende ses idées. Les partis réformistes ont abandonné jusqu'à ces mots de travailleurs et de lutte de classe. Mais les travailleurs sont là, et bien là. Ils sont indispensables au fonctionnement de la société. D'ailleurs, on s'en rend compte aujourd'hui quand ils font grève. Quant à la lutte de classe, elle n'est pas une invention des révolutionnaires. C'est le quotidien de millions de femmes et d'hommes. Et ce sentiment de classe, oui, il existe parmi les exploités. Eh bien, il faut que nous le confortions politiquement. Il faut que ce sentiment de classe se transforme en une conscience de classe, solide, forte, capable de résister aux pressions de la société bourgeoise et d'orienter les nôtres dans les combats qui se présentent. Pour cela, il faut reconstruire un parti communiste révolutionnaire capable d'intervenir sur tous les problèmes qui se posent et en mesure d'offrir la boussole nécessaire pour rassembler les travailleurs autour d'une politique de classe et des perspectives propres aux travailleurs, les perspectives communistes révolutionnaires. Le courant communiste révolutionnaire est faible, mais cela peut changer vite. Il se doit de maintenir ses idées vivantes et il se doit d'être de tous les combats. Des combats sociaux, mais aussi des combats politiques. C'est pourquoi, tout en étant convaincus que les élections ne peuvent pas changer notre sort, nous tâchons de nous y présenter à chaque fois et nous ferons le maximum pour faire entendre le camp des travailleurs lors de la prochaine campagne présidentielle. Mes camarades m'ont confié la tâche d'être candidate pour cette élection, mais il faut que ce soit notre campagne à nous tous. L'élection présidentielle a ce petit avantage que nos idées peuvent être entendues à l'échelle du pays, y compris là où nous n'existons pas ou pas beaucoup. Nous utiliserons évidemment toutes les possibilités médiatiques, mais les rares fois où les journalistes, télévision ou radio, seront censés me donner la parole, ils s'emploieront à la déformer et à la disqualifier. Il ne faut pas s'en étonner, jamais les militants du mouvement ouvrier n'ont eu réellement accès aux moyens de diffusion de la bourgeoisie. Alors, le succès de cette campagne ne se fera pas par médias interposés. Il dépendra de notre activité militante, de notre force de conviction, de notre capacité à nous faire comprendre des nôtres. Il revient à tous ceux qui se retrouvent dans nos idées de les diffuser et d'en convaincre leurs amis, leurs collègues de travail, leurs voisins, leurs proches. Il y a des discussions à mener, des arguments à apporter, des préjugés à combattre, des perspectives à ouvrir. Beaucoup de travailleurs, écœurés à juste titre par le spectacle donné par le Parti socialiste, la droite et le Front national, ne s'estiment représentés par aucun parti. Il nous faut nous adresser à eux et les entraîner à faire un vote de conscience de classe. Cette campagne sera réussie si des centaines de milliers de travailleurs votent pour leur camp, le camp des travailleurs. Propager ces idées et cette conscience fait partie des efforts nécessaires pour construire un parti. Un parti révolutionnaire peut grandir très vite s'il y a de grandes luttes sociales. Lorsque les travailleurs seront déterminés à changer leur sort. Mais il ne se développera que s'il y a préalablement des militants capables de rassembler et d'aider à s'organiser ceux qui veulent se battre. Les élections sont des combats politiques et elles nous donnent l'occasion de propager nos idées, de regrouper tous ceux qui sont prêts à s'impliquer dans cette campagne et de rassembler au travers du vote autour du camp des travailleurs. Alors, je compte sur vous pour nous aider dans cette campagne et pour avancer sur la voie du parti qui est nécessaire au monde du travail. Plus l'élection se rapprochera, plus le Parti socialiste se servira de la menace du Front national et de sa possible élimination au premier tour pour faire le chantage au vote utile. Ceux qui, autour de nous, sont tentés par le Front national se trompent gravement. Un parti qui s'en prend aux immigrés, c'est-à-dire à des travailleurs, à d'autres exploités, est un parti qui ne peut être qu'un ennemi, un des pires qui soit. Les idées les plus réactionnaires, les plus racistes, la défense du régime de Vichy, des guerres coloniales et même du fascisme sont dans les gènes du Front national. Et même si Le Pen père a été écarté par sa fille, les idées les plus réactionnaires sont remises au goût du jour par la petite fille, Marion Maréchal Le Pen, une grenouille de bénitier qui ne cache même pas ses sympathies royalistes. Si la crise s'aggrave, ses idées et ses préjugés basés sur le rejet de l'autre se renforceront. Ils diviseront et affaibliront considérablement les travailleurs et les livreront pieds et poings liés à l'exploitation patronale. Alors, le combat contre le Front national est le combat de tout travailleur conscient de ses intérêts. Et les mois à venir doivent être l'occasion de s'expliquer avec tous ceux qui cèdent aux sirènes du FN et du repli sur soi. Car nous ne combattrons pas le FN par des combines électorales. Comptez sur la droite ou sur le Parti socialiste pour lui faire rempart, c'est se fourvoyer. Sur la politique sécuritaire, sur l'état d'urgence, sur la politique de l'asile, la droite, mais aussi la politique du gouvernement, ne font que renforcer le crédit des Le Pen en diffusant les mêmes préjugés et les mêmes amalgames contre les étrangers. Oui, le Front national est un danger pour le monde du travail et un des pires qui soit. Et la situation politique est grave. Mais elle l'est parce que les travailleurs laissent la politique dans les mains des seuls représentants de la bourgeoisie, parce qu'ils ne se font pas entendre. Dès que le monde du travail se mobilise sur des bases de classe, Il n'y a plus de place pour les idées du Front National, plus de place pour son poison raciste et ses divisions. Alors, se battre pour mettre en avant les intérêts de classe des travailleurs est le seul et unique moyen de combattre l'influence de ces idées nauséabondes. Le terreau du Front National, c'est la crise, c'est la guerre de classe qui crée le chômage, le chacun pour soi. Il nous faut être capables d'offrir des perspectives pour lutter contre le chômage, la précarité et les bas salaires, et à l'opposé du Front National, qui est un des défenseurs de l'ordre bourgeois, il faut défendre la perspective de renverser ce système complètement fou. Il faut donc reconstruire, et il y a un tas de choses à faire. Avec cette montée du Front National d'un côté, le terrorisme de l'autre, tout concourt à exacerber le racisme, la méfiance et le rejet de l'autre. Et ce sont là des éléments d'un engrenage mortel. Mais encore une fois, cette évolution réactionnaire, encouragée d'ailleurs par les grands partis qui se targuent tous d'être républicains, est la conséquence de décennies de recul du mouvement ouvrier. Elle provient du recul de la conscience de classe. Il faut contribuer à ce qu'elle renaisse. Et cela passe par la renaissance d'un parti qui, sur tous les événements, prenne position du point de vue des intérêts des travailleurs d'un point de vue de classe. Alors, contre les divisions semées dans la classe ouvrière d'ici, il faut affirmer la conscience de nos intérêts communs, par-delà la diversité de nos métiers, de nos origines, de nos statuts. Contre la guerre et les bombardements sur la Syrie et l'Irak, il faut affirmer que le terrorisme est le fruit pourri de l'impérialisme. Le chaos qui règne dans ces régions, Daesh, qui exerce une des dictatures les plus féroces, sont le produit des rivalités, du pillage et de l'oppression des grandes puissances, des Américains, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de la Russie, mais bien sûr de la France aussi. Avec leurs bombes et leurs manœuvres, ils vont créer de nouveaux monstres. Alors, à bas la politique impérialiste et les interventions guerrières de la France. Contre le sort inhumain qui est fait aux migrants, il faut affirmer pour tous les exploités la liberté de circulation et d'installation. On ne peut pas accepter cette hécatombe en Méditerranée. Et allons-nous accepter que la planète se couvre de camps infâmes où l'on enferme femmes, hommes, enfants par dizaines de milliers parce qu'ils ont fui la guerre ou la misère comme si c'était un crime? C'est la fermeture des frontières qui crée le drame des migrants. En leur assurant la liberté de circulation et d'installation, y compris, bien sûr, en Europe, sur ce continent riche de 500 millions d'habitants, les réfugiés se répartiraient d'eux-mêmes. Ils pourraient s'appuyer sur les membres de leur famille et sur toutes les bonnes volontés qui existent. Alors il faut que les travailleurs accueillent les migrants à bras ouverts et en fassent au plus vite des frères de classe et des frères de combat pour changer de fond en comble cette société qui est de plus en plus inhumaine. Et pour finir, contre l'organisation capitaliste de l'économie, il faut affirmer les perspectives communistes. Crise économique, chômage de masse, guerre, terrorisme, crise des migrants, crise écologique, les dirigeants actuels, qu'ils soient à la tête des multinationales, des grandes banques ou des États, sont non seulement incapables d'apporter quelques solutions que ce soit, mais pire, ils poussent l'humanité entière vers le précipice. Comme les milliards qu'ils extraient de la production et l'exploitation des travailleurs du monde entier ne leur suffisent pas, ils les jouent au casino de la finance. Autrement dit, plus nous travaillons, plus nous faisons d'efforts et de sacrifices, plus la spéculation augmente, plus nous risquons le krach généralisé. Y a-t-il plus fou que cette économie-là? Il n'y a jamais eu autant de richesses. Et pourtant, on ne nous parle que de crise, de déficit. On nous met dans le crâne qu'il faut accepter des sacrifices, accepter de vivre moins bien que nos parents. Et c'est sans parler de ce qui se passe dans les pays les plus pauvres. Non, nous ne sommes pas condamnés à cette dictature d'une poignée de grands actionnaires. Il faut mettre fin à l'obstacle que constitue la propriété privée des moyens de production, des usines, des banques, des transports et des grandes chaînes de distribution qui empêchent toute organisation rationnelle de l'économie. Mettre en commun ces moyens de production, c'est le sens profond du mot communisme. Ce mot a été dénaturé et transformé en son contraire. Mais il est un des mots les plus riches de signification, les plus beaux. En organisant collectivement les moyens de production, en décidant ensemble, à l'échelle de la planète, ce que l'on produit ou pas, en répartissant les richesses, le chacun pour soi, la lutte individuelle pour la vie, pourrait enfin céder la place à la conscience collective que l'humanité est une et indivisible et qu'elle a les moyens d'assurer une vie digne à chacun de ses membres. Et la seule force sociale capable de transformer la société dans ce sens, ce sont les travailleurs. Même si aujourd'hui, ils sont encore pour certains abattus, même s'ils sont divisés et passifs pour encore un grand nombre, nous sommes convaincus qu'ils reprendront le combat, parce qu'ils n'auront pas le choix. Parce que ni le patronat, ni le gouvernement ne leur feront de cadeaux. Et avec la mobilisation en cours contre la loi El Khomri, eh bien, il y a une réaction du monde ouvrier. Une fraction des travailleurs est sortie de la passivité et est passée à l'action. Eh bien, nous espérons et nous militons pour que cela ne soit qu'un début, le début du réveil de la combativité ouvrière. Les premiers pas sur la voie de la reconstruction d'un rapport de force favorable aux travailleurs. Un rapport de force qui nous donnera la possibilité de reprendre l'initiative contre le patronat, de lui demander des comptes et de le faire reculer. Et un rapport de force tel qu'il fasse craindre une explosion sociale et force la bourgeoisie à en rabattre. Alors, engageons-nous dans ce combat en restant convaincus que tôt ou tard, les travailleurs chercheront la voie pour un avenir meilleur, pour transformer la société de fond en comble. Et il faut qu'ils puissent trouver celui qui mène vers le communisme.